Et si on considérait que la matière sonore devenait une source de données scientifiquement valables? Et si le son pouvait être une source principale d'explication de phénomènes sociaux, spatiaux ou environnementaux? Peut-on considérer l'oral comme une preuve scientifique en tant que telle? Lorsqu'on pense au champ de la recherche scientifique, on est souvent en train d'imaginer des chercheurs dans leur laboratoire en train de faire des expériences avec des produits chimiques. Mais faire de la recherche, cela peut aussi consister à s'intéresser aux sociétés ou aux faits sociaux, qui obligent le scientifique à aller sur le terrain et recueillir des informations. Dans le jargon scientifique, ces données peuvent être recueillies de différentes façons. De fait, certains travaillent par observation, d'autres par questionnaire ou encore certains par entretien. Justement, les entretiens longs avec des habitants ou des personnes choisies en fonction de l'enquête permettent de recueillir des morceaux de récits de vie. Les histoires racontées rendent compte de la façon dont les gens peuvent expliquer certaines pratiques, souvent en tentant de montrer qu'ils agissent de façon rationnelle. Après avoir recueilli ces paroles, le chercheur revient au laboratoire et retranscrit ses récits. Mettre à l'écrit tout un entretien permet de travailler à partir d'un document qui puisse être comparé et dont les extraits puissent être cités dans les articles scientifiques. De ce fait, l'enregistrement sonore est quasiment tout le temps une donnée intermédiaire. L'audio sert à faire une retranscription qui deviendra une donnée réellement scientifique. Parfois considéré comme lourd, le fichier audio n'est pas forcément conservé. Après avoir retranscrit et analysé l'entretien, le chercheur ne voit souvent pas l'intérêt de conserver la trace du document sonore. Essayons de voir pourquoi il est tout aussi important que le texte. La matière sonore nous raconte différentes choses. Le son, ça peut être de la voix, du chant, des bruits parasites, mais ça peut aussi être un environnement sonore avec une pluralité de petites choses à l'intérieur. Quand on enregistre une personne, on enregistre sa voix, mais parfois aussi le bruit de la machine à café du bar dans lequel on a enregistré. Quand on enregistre un chant a cappella, on enregistre des personnes qui chantent, mais aussi des bruits de pieds qui tapent sur le sol, ou des mains qui applaudissent, qui claquent. On peut parfois aussi capter des rires ou des sonneries de téléphone. D'un point de vue technique, le son a aussi des propriétés qui lui sont propres. Il est mesurable avec sa fréquence en hertz, avec sa durée en minutes ou en secondes, avec son format d'enregistrement, MP3, WAV, FLAC, etc. Donc le son, ça ne veut pas seulement dire des éléments toujours transcrivables à l'écrit, ça veut parfois dire des bruits ou des propriétés que l'on ne peut pas traduire. Le son, c'est un monde en soi, comme tout format. Mais alors, pourquoi l'écrit est-il hiérarchiquement plus puissant que le son? Je pourrais pas vous le dire. Par contre, je sais que la science est construite à partir de l'écrit, depuis bien longtemps. Les monographies, les livres ou les articles scientifiques sont les formats les plus couramment employés pour diffuser les savoirs scientifiques. Mais cela traduit aussi une forme de hiérarchie qu'induit l'écrit. Savoir écrire un texte n'est pas facile pour tout le monde. C'est tout un ensemble de connaissances orthographiques, grammaticales, syntaxiques, etc. Cela soulève aussi des questions de style. Être chercheur ou professionnel dans un domaine, c'est souvent être capable de répondre à une commande par écrit et comprendre la commande avec ses codes implicites. L'adage « publish or perish » est souvent cité. Pour les chercheurs, il signifie littéralement « publier ou périr ». Et dans cette expression, il y a bien le verbe « publier ». Cela implique qu'un chercheur, pour se maintenir, doit savoir écrire régulièrement des articles. Pour ma part, rédiger, c'est pas la partie que je préfère, parce que je me sens pas toujours à l'aise dans l'art de formuler des phrases de façon harmonieuse. Imaginez-vous écrire un mémoire. Un style, ça se travaille, mais quand même, c'est pas toujours simple. Alors mettez-vous à la place de quelqu'un à qui on demande de prendre rendez-vous par écrit pour une démarche administrative indispensable. Savoir écrire ou lire, même quelques lignes, n'est pas toujours aisé pour tout le monde. quand cela devient obligatoire pour prendre un rendez-vous, ça peut poser question. Aujourd'hui, par exemple, pour changer la carte grise de sa voiture, il est nécessaire de prendre un rendez-vous en ligne sur un site ministériel. Cela implique d'abord d'avoir les moyens techniques pour accéder au site internet, donc à minima un ordinateur et une connexion internet. Et puis après, cela veut dire aussi qu'il faut savoir sur quel site se rendre, donc éviter les sites frauduleux. Arrivé sur la bonne page, il faut comprendre ce qui est demandé, renseigner les champs avec les bonnes informations dont on dispose, etc. Effectuer une démarche de service public implique aujourd'hui de maîtriser toute une somme de compétences, et plus seulement orales, même pour demander un rendez-vous. Cet exemple montre bien comment l'écrit est devenu supérieur à d'autres formes de rationalité. Comment faire quand on n'est pas à l'aise à l'écrit, mais plus à l'oral? Même si on est compétent pour communiquer oralement, cela ne servira absolument à rien pour prendre un rendez-vous sur le site pour la carte grise ou passer un examen de type concours à l'écrit. En fait, le son, c'est quelque chose qui remet beaucoup de choses en cause. Il interroge la hiérarchie des savoirs et assez souvent les rapports de pouvoir que ça cache. Pour naviguer dans le champ de l'analyse des environnements sonores urbains, rendez-vous dans l'extrait suivant.